Nous ne parvenions jamais à nous réchauffer tout à fait. Nous nous couchions le soir dans l'étreinte gelée de linceul détrempé, et au matin je me le rappelais. Il me fallait un temps infini pour me lever après avoir ramené 10 fois sous l'abri des couvertures un bras ou une jambe transie qui s'était imprudemment aventuré à l'air libre. Plus tard, au tout début de l'adolescence, je m'étais installé tout seul dans une cave que mes parents avaient transformée en chambre indépendante. Et il y faisait bien sûr encore plus froid que dans les pièces de l'étage. Je me revoyais allongé dans l'obscurité d'une nuit de février, les genoux ramenés sous le menton, un convecteur électrique dérisoire dont le bourdonnement m'empêchait de dormir me fixait de son œil rouge qui ne sillait jamais, tandis que, tout près de mon lit, de la roche affleurante des fondations ruisselaient les eaux noires de l'hiver. Je n'ai pas pris l'avion du retour pour retrouver ces choses dont je sais bien qu'elles ont disparu pour toujours et n'ont été rendues désirables que par le passage irréversible du temps. Je n'ai jamais cru aux mensonges de la nostalgie. Je ne rentre que parce que j'y suis contraint. Le contrat de mon second détachement à l'étranger est arrivé à son terme. Il est légalement impossible d'en signer un nouveau sans repasser par le territoire national pour 3 longues années de purgatoire. Bref, je n'ai vraiment pas le choix. Dès que j'atterris à Paris, où je dois attendre quelques heures avant de monter dans l'avion maudit qui me ramènera au bercail, je comprends que mon retour va s'avérer plus douloureux encore que je l'avais craint. Dans les couloirs de l'aéroport, à la sortie de la passerelle, je suis accueilli comme les autres passagers par des écrans sur lesquels surgissent en boucle divers personnages souriants brandissant des panneaux de bienvenue. Comme si ce n'était pas suffisamment exaspérant, je découvre qu'un peu plus loin sur un mur, près d'une tour Eiffel stylisée, est inscrit en grosse capitale de couleur « Paris vous aime ». J'apprendrai bientôt que les voyageurs en partance se voient pour leur part annoncer « Paris ne vous oubliera pas ». Aux toilettes au-dessus des lavabos, je suis invité à évaluer la qualité de mon expérience en appuyant sur des émojis plus ou moins souriants selon qu'ils symbolisent un visage pas, peu, moyennement ou très satisfait. Je suppose, quoique cela ne soit pas très clair, que cette enquête absurde ne vise pas à déterminer si les usagers sont satisfaits du fonctionnement de l'appareil digestif qui leur a été dévolu, mais plutôt de l'hygiène des lieux, dans lesquels, conformément à ce que l'on peut attendre après l'arrivée des longs courriers en tout début de matinée, flottent des effluves méphitiques particulièrement tenaces qu'il me paraît fort improbable de pouvoir dissiper en se contentant d'exprimer sa vigoureuse insatisfaction. Je récupère ma valise, je monte au niveau des départs, l'ascenseur m'annonce que la porte se ferme, l'ascenseur m'annonce que la porte s'ouvre, personne ne me demande ce que je pense de cette nouvelle expérience, la fin de l'année scolaire provoque évidemment de considérables mouvements migratoires et l'aéroport est rempli d'une foule bruyante dans laquelle on ne compte aucun réfugié fuyant la famine ou la guerre mais seulement des vacanciers plus ou moins fortunés, se pressant au comptoir d'enregistrement, prenant stoïquement leur place dans d'interminables files d'attente au contrôle de sécurité, déambulant dans les boutiques dont l'horrible concentration a transformé l'aéroport en un supermarché de l'enfer dans lequel, suprême raffinement de cruauté, il est évidemment impossible de s'asseoir à une table pour se faire servir un café digne de ce nom ou de la nourriture qui ne soit pas vendue sous emballage plastique. Car il faut marcher, passer d'une boutique à l'autre. C'est en cela que consiste le châtiment « Paris vous aime, Paris ne vous oubliera pas ». Et je ne peux m'empêcher de saluer le génie pervers du serviteur de Satan qui, en inventant ce slogan scandaleux, a réalisé le tour de force logique de former une proposition qui constitue en même temps ce que Dieu lui-même pensait impossible, un mensonge et un non-sens. Non-sens parce que Paris n'a ni sentiment ni mémoire. Et pourtant mensonge. Parce que Paris vous oubliera. Paris vous a en fait déjà oublié, et parce que bien évidemment Paris ne vous aime pas. Comme vous le prouvent les agents de sécurité qui vous mettent en ligne comme du bétail, et vous rabroussent en ménagement, d'abord pour savourer la vile jouissance que procure l'abus d'un pouvoir si modeste soit-il à tous ceux qui le détiennent. Et cependant, en toute justice. Car vous êtes trop bête pour comprendre les consignes les plus simples. Et vous vous obstinez à vouloir introduire en cabine des magnums de mousseux, un set de couteaux de cuisine ou du matériel pyrotechnique. Ce qui devrait au moins vous valoir en rétribution une bonne volée de coups de pied au cul administrée par le personnel de l'aéroport aussi bien que par les passagers, moi par exemple, qui doivent patienter derrière vous, victimes de votre stupidité et devront encore la subir dans l'avion où vous mettrez